Alors, c'est vrai que lorsqu'on se situe dans l'espace des luttes et des réflexions en France, on entend essentiellement parler de lutte anticarcérale, de critique anticarcérale, parfois de carcéralisme. J'avoue ne pas vraiment aimer cette expression. Toujours est-il que la focale est mise sur la prison. Et donc, ça vaut le coup de faire une petite parenthèse en termes de définition. Qu'est-ce que le système pénal ? Le système pénal, c'est la prise en charge par l'État, et le mot « État » est extrêmement important, c'est la prise en charge par l'État d'un certain nombre de faits qu'il qualifie de délits ou de crimes, hein, ils sont catégorisés comme tels, c'est l'objet du code pénal, hein, le code pénal est un long catalogue de tout ce qu'il est interdit de faire. Ça peut nourrir l'imagination. Ah, ça faudra enlever ça de l'enregistrement. Mais en tout cas, l'État décide de ce qu'il est interdit de faire, hein, donc ce qui s'appelle des délits ou des crimes. Ces délits et ces crimes étant punis, notamment par des peines de prison. La punition d'un certain nombre de faits repose non pas sur la dénonciation de victimes. Hein, parfois, les faits sont connus grâce à la dénonciation d'une victime. Hein, c'est le dépôt de plainte, par exemple, la constitution de partie civile. Mais l'État poursuit aussi des auteurs de faits en l'absence même de victimes. Hein, par exemple, si vous dégradez une préfecture, hein, la préfecture n'est pas une victime en tant que telle. Hein. L'État n'est pas victime en droit français. Bon, bref. Donc, c'est tout cela... c'est l'objet de la procédure pénale. Vous avez d'un côté le code pénal qui vous dit ce qu'il est interdit de faire. De l'autre côté, vous avez le code de procédure pénale qui vous dit comment l'État va organiser les poursuites et comment vous allez pouvoir vous défendre. Et donc, lorsqu'on parle du système pénal, on parle de tout ce qui organise ces poursuites. Alors, ça inclut l'institution policière et le travail policier. Ça inclut... En gros, les juges, ce qu'on entend couramment par la justice, hein, donc le moment du procès, par exemple, et puis ensuite, l'institution carcérale, donc la prison. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'on parle de projet d'abolir le système pénal, on parle bien d'abolir non seulement la police, mais aussi les tribunaux et aussi les prisons. Donc on peut dire que le projet de l'abolitionnisme pénal est beaucoup plus ambitieux que les simples luttes anticarcérales. Alors, pourquoi penser l'abolition du système pénal plutôt que simplement l'abolition de la prison? Et on ne doit pas se contenter de luttes anticarcérales, en tout cas à mon sens. Tout d'abord parce que on peut très bien imaginer que le système pénal puisse... à moyen terme, peut-être même plus vite que ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui, se passer de la prison. L'enfermement de personnes est extrêmement coûteux. Alors, non seulement ça coûte de l'argent, ça prend de l'espace, et puis de plus en plus, alors, en tout cas c'est ce qu'on voit aux États-Unis et peut-être plus largement en Amérique du Nord, il y a des critiques de la prison qui viennent, je pourrais dire, des courants réformistes qui attaquent l'institution sous l'angle de l'écologie. C'est vrai que les prisons, par définition, lorsque vous avez un grand nombre de personnes qui sont sur un espace extrêmement réduit, ça implique très souvent de multiples formes de pollution. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le développement de tout un tas de technologies qui peuvent laisser à penser... reprendre l'expression d'Angela Davis et le titre de son livre, que la prison pourrait devenir obsolète, hein, et que finalement l'abolition de la prison, elle se ferait pas par les abolitionnistes, hein, mais simplement par la rationalité économique, hein, qui permettrait d'imaginer des formes de contrôle et de surveillance extrêmement invasives, mais qui ne passent pas par l'enfermement de certains individus dans des institutions de type prison. Et donc, lorsqu'on plaide pour l'abolition du système pénal plutôt que l'abolition de la seule prison, on anticipe un peu, hein, cette intelligence de l'État et du système pénal à réfuter en fait les critiques qui peuvent lui être faites. Thank you. aujourd'hui, lorsque on écoute les courants dominants du féminisme, lorsque on écoute ce qui se dit à la radio ou à la télévision des revendications féministes, on entend pour l'essentiel mettre fin à l'impunité, hein, mettre fin à l'impunité des violences faites aux femmes. On entend des propositions comme le durcissement des peines, l'allongement de la période de prescription. La prescription, en fait, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les victimes de violences à caractère sexuel, lorsque les faits ont été commis sur une personne mineure, ont jusqu'à 10 ans après leur majorité pour déposer plainte. Hein, et là, il y a des débats pour allonger cette période, voire pour rendre les délits et crimes à caractère sexuel imprescriptibles. Hein, pendant très longtemps, les seuls crimes qui étaient en France imprescriptibles étaient les crimes contre l'humanité. Et donc, vous voyez, ça s'inscrit aussi dans des changements plus généraux aussi, des sensibilités et l'évolution des politiques pénales. Parmi les propositions du féminisme mainstream, du féminisme dominant, c'est aussi la création de nouvelles catégories de délits et de crimes. Là, l'exemple qui nous est le plus familier, qui est le plus récent, c'est la création du délit de harcèlement de rue. Hein, c'est une nouvelle catégorie qui est apparue, et donc pour punir un certain type de faits. Il y a énormément de débats, par exemple sur la création, enfin en tout cas la recréation, pour être précis, de la catégorie d'inceste, par exemple. Hein, ou est-ce qu'on ne pourrait pas créer une catégorie spécifique pour les féminicides, hein, et ne pas se contenter de la catégorie d'homicide, voilà. Et donc c'est cela que l'on entend aujourd'hui lorsque on écoute les médias et qu'on regarde quelles sont les propositions des courants dominants du féminisme. Ce qui me semble d'abord important de rappeler, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. Cette idée que les femmes auraient quelque chose de positif à attendre du recours au système pénal et que le féminisme devrait s'appuyer sur la criminalisation, la punition de certaines personnes, ça s'est fait au tournant des années 70 et des années 80. Hein, les chercheuses états-uniennes, en particulier Elisabeth Bernstein, qui a beaucoup travaillé là-dessus, parlent d'un féminisme carcéral qui s'est mis lentement en place, hein, et donc est venu façonner les agendas féministes et les propositions en termes de stratégie. Ce tournant punitif, cette idée que la punition pouvait participer à l'émancipation, il n'est pas le propre des mouvements féministes. Et c'est quelque chose que je pense important de rappeler. Il ne s'agit pas de dénier aux féministes leur responsabilité dans l'évolution des courants dominants du féminisme, mais c'est quelque chose de plus général qu'on a vu dans un certain nombre de champs politiques, comme les luttes LGBT, les luttes antiracistes, qui de plus en plus ont proposé de s'appuyer sur la criminalisation, par exemple des actes LGBT-phobes, des discriminations raciales, etc. Donc c'est quelque chose que l'on voit, qui s'est propagé dans beaucoup de mouvements politiques, et qui est venu rencontrer une autre évolution, qui est celle du système pénal, qui s'est durci dans la plupart des pays occidentaux après les années 70, avec des chronologies un petit peu différentes, énormément de débats qu'on peut avoir sur quelles sont les raisons exactes pour lesquelles il y a eu ce durcissement, mais en gros, c'est les années 70, avec le début de la guerre à la drogue, et puis l'arrivée au pouvoir au début des années 80 dans énormément de pays, de partis politiques de droite, de libéraux, et donc le libéralisme économique, c'est aussi a beaucoup contribué à instrumentaliser les luttes féministes, mais aussi antiracistes et ensuite LGBT. Alors, même si, encore une fois, aujourd'hui, ça semble un petit peu incroyable de dire que les luttes féministes ne devraient pas appeler à davantage de criminalisation, c'est en même temps quelque chose qu'on peut démonter. Et je pense qu'on peut le démonter à deux niveaux. Tout d'abord, en regardant qu'est-ce que ça impliquerait concrètement que d'appliquer ce programme qui nous est proposé donc, par ces courants dominants du féminisme, d'une impunité zéro. Parce que, et c'est un reproche que je fais à ce féminisme-là, de ne pas vraiment nous dire c'est quoi l'horizon, c'est quoi l'horizon qu'il nous propose. Moi, l'horizon que je propose, c'est un horizon sans prison, pas demain, mais à moyen terme. Par contre, elles, quand elles nous disent impunité zéro, elles ne nous disent pas qu'en clair, aujourd'hui en France, hein, y a au moins 50 000 viols qui sont commis tous les ans, et que donc leur horizon, qui est celui d'une impunité zéro, ce serait bien d'incarcérer au moins 50 000 hommes tous les ans. Donc ça, elles ne nous le disent jamais, nous disent jamais, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que c'est ça qu'on veut en fait, hein, puis en termes de dépenses publiques, de qu'est-ce que ça implique socialement d'avoir des centaines de milliers de personnes incarcérées. Elles ne nous disent pas également que ce projet repose sur une hypothèse qui est une hypothèse extrêmement forte, mais qu'elles ne discutent jamais, qui est celle de formes de rationalité qu'auraient les auteurs de délits et de crimes. Je m'explique, lorsque on propose de criminaliser et de recourir de façon systématique à la punition, on fait quand même l'hypothèse que la personne qui va recevoir cette punition va être dissuadée de recommencer, hein, c'est le caractère dissuasif de la peine, et puis que la peine va dissuader d'autres personnes de commettre des faits similaires. Donc c'est ce qu'on appelle donc l'effet dissuasif qu'aurait le système pénal. Cet effet dissuasif de la peine, elle repose sur l'idée que les auteurs auraient une forme de raisonnement rationnel avant de commettre un délit ou un crime. Alors certes, pour un certain nombre de faits, il est préférable d'avoir un raisonnement rationnel, hein, lorsque on fait une activité délictuelle. Et de fait, les auteurs d'un certain nombre de types de faits ont des types de raisonnement rationnel. Quel est le bénéfice? Quel est le risque de se faire attraper? Et puis, si je me fais attraper, hein, quel est le coût de la sanction? Mais cette hypothèse que les auteurs de délits et de crimes ont ce type de raisonnement et que du coup, si on applique des sanctions extrêmement graves, on va les dissuader de commettre ces actes-là, ça ne fonctionne pas pour les actes qui sont les plus graves. Voilà, les auteurs ne font pas ce type de raisonnement. Hein, ils le font parfois de façon a posteriori en disant « de toute façon, je m'en fichais de la peine, condamnez-moi, etc. » Mais bon, c'est souvent des formes d'instrumentalisation du procès. Voilà concrètement les faiblesses des propositions féministes mainstream aujourd'hui qui à la fois ne nous disent pas l'ampleur du nombre de gens et d'hommes qu'elles veulent mettre en prison, et puis en même temps, faiblesse, parce que c'est pas sûr que ça fasse baisser le niveau des violences à caractère sexuel ou des violences faites contre les femmes. C'est quelque chose qu'on sait, c'est que les personnes qui sont en prison sont pas forcément abolitionnistes, ils sont même une minorité à être abolitionnistes. Et puis parmi les proches de personnes incarcérées, l'abolitionnisme est aussi une position extrêmement minoritaire. Et du coup, il y a des tendances à la fois à fétichiser le témoignage des premières concernées, comme on dit. Pardon, je suis ironique, mais cette expression est un peu énervante. Une fétichisation hein, du témoignage à la fois des prisonniers, des prisonnières, des proches de détenus, et parfois une absence de, enfin et souvent même une absence de critique et même de discussion politique en fait. C'est-à-dire que c'est comme si ces personnes-là n'étaient pas des vrais sujets politiques, hein, ils sont juste là pour témoigner, montrer qu'elles sont là dans la lutte, hein, qu'elles ne sont pas quand même exclues, hein, qu'on est inclusif comme on dit. Mais en même temps, il y a rarement des vrais débats sur le fond. Parfois même, et là je vais peut-être être un peu méchante, mais parfois même l'absence en fait de ressources politiques qui leur sont données pour être autre chose que des personnes qui viennent témoigner, raconter leur histoire extrêmement triste, etc. Hein, on se l'accorde là-dessus. D'ailleurs, souvent, là je parle des mobilisations sur la prison, on attend justement d'elles ce récit triste. Hein, c'est-à-dire que si vous venez parler du fait d'avoir des proches en prison ou d'avoir été en prison, on attend de vous de dire que c'est terrible, etc. Et que vous avez quand même assez peu de place pour dire « Mais en fait, mais le parloir, j'ai eu un parloir génial, c'était trop bien, et puis qu'est-ce qu'on s'est marré ?» Impossibilité de dire que le parloir, c'est horrible, hein, qu'on y va parce qu'on se sent bien obligé d'y aller, qu'on n'a pas vraiment le choix. Hein, et du coup, il y a un peu des récits qui sont attendus dans ces milieux hein, où de la femme qui va au parloir et qui apporte le linge, etc. Ce qui fait que, des fois, il y a des incompréhensions entre les militants qui sont donc dans cette position d'attente d'un récit des peines hein, et de la tristesse liée à la condition d'avoir des proches en prison ou d'avoir été en prison, et puis une réalité des fois de l'expérience des personnes pour qui c'est un événement qui peut être relativement banal en fait, lié à une expérience sociale hein, dans laquelle la prison a sa place. Autre difficulté qui est liée au fait que la plupart des personnes qui sont à l'intérieur et aux personnes qui ont des proches à l'intérieur de ne pas être abolitionnistes, c'est qu'on entend aussi pas mal d'abolitionnistes dire « Ah de toute façon, ça vaut pas la peine de leur parler, de toute façon, les proches, ils sont comme ça, ils sont pas conscientisés, etc. etc. » Je pense que ça vaut le coup de réfléchir à pourquoi, en fait, les personnes qui sont dans cette situation-là ne sont pas abolitionnistes. Il y a sans doute un problème du côté de l'offre politique qui leur est faite, hein, parce que effectivement, lorsque les seuls militants qui vont les voir sont des gens qui sont là, mais mes pauvres gens, ça doit bien être triste hein, d'avoir des proches au parloir, il y a déjà là une incompréhension hein, de ce qu'est l'expérience sociale de la prison. Et puis, autre problème, c'est que pourquoi les prisonniers et les proches de prisonniers sont ce que j'appelle légitimistes, donc pas abolitionnistes, c'est que c'est plus facile en fait de vivre avec la prison en se disant qu'elle est légitime pour certains. Hein, c'est beaucoup plus difficile de se dire « Mais mon Dieu, c'est une injustice totale, va falloir se bouger pour la supprimer. » Cette réaction qui fait accepter en fait un sort individuel hein, plutôt que de remettre en cause un système, une oppression collective, elle n'est pas le propre à la prison. Elle se retrouve pour toutes les populations les plus vulnérables, les plus dominées, pour qui il est plus facile de dire « mais mon sort individuel est injuste, mais ça permet de justifier le sort d'autres populations qui me sont proches ». Alors nous, sociologues, on dit que c'est extrêmement lié à la stigmatisation, que toutes les populations stigmatisées ont tendance à avoir ce type de comportement. Et lorsque quelqu'un est usager de produits stupéfiants et dit « mais non, mais moi je suis pas un vrai usager, je suis pas un vrai drogué, etc. », il fait juste se protéger lui-même ou elle-même hein, de quelque chose qui est socialement perçu comme négatif et donc se réapproprier en fait une forme de respectabilité en disant « mais en fait, moi je mérite pas d'aller en prison, mais alors par contre les autres, oui ». Et ça, on l'entend énormément en prison. Hein, tout le monde a des bonnes raisons de dénoncer son sort individuel. On l'entend alors de façon extrêmement choquante hein, de la part, par exemple, des agresseurs à caractère sexuel. Mais en fait, les pires des pires ont toujours des justifications pour dénoncer leur propre sort. On l'entend du côté des femmes qui vont au parloir. Hein. Combien de fois j'ai entendu dire à des femmes qui venaient visiter des hommes incarcérés pour des faits extrêmement graves, dire « bah oui, mais bon, quand même, ceux qui roulent bourrés, quand même, c'est inadmissible ». Là, je me rappelle vraiment très précisément en plus d'une conversation sur les grâces présidentielles qui avaient été annulées. Et voilà, et là, ça leur paraissait absolument scandaleux, irresponsable, etc., parce que ça faisait prendre des risques inconsidérés à tout un tas de gens. Et ces femmes-là venaient voir des gens qui avaient pu faire des homicides, mais au moins ils savaient qui ils allaient tuer, etc. Et ça leur paraissait beaucoup plus justifiable. Et donc, prenons au sérieux, en fait, les formes de justification qu'ont les personnes lorsqu'elles sont confrontées à une institution qui les stigmatise, à une expérience sociale qui est porteuse de stigmatisation. Aux États-Unis, alors en réponse aux revendications des courants féministes de systématiser par exemple l'intervention des policiers dans des situations de violence conjugale, bah, ça s'est traduit par ce que tu décris, en fait, davantage de criminalisation de victimes. Mmh. Et donc en particulier des femmes et des LGBT. Pourquoi ? Parce que là où les policiers interviennent, bah, ils se disent, bah, en fait, là, y a eu quand même un échange de coups, allez, on embarque tout le monde, on criminalise tout le monde. Et donc là, c'est un effet réel des politiques auxquelles ont appelé les courants dominants du féminisme, qui veut dire qu'il y a davantage de victimes qui se retrouvent à être incarcérées, qui se retrouvent à être en prison. Ce qui crée aussi des mobilisations, alors dans pas mal d'États aux États-Unis, de femmes qui se retrouvent parfois pour des dizaines d'années en prison, dans des situations d'autodéfense, et qui plaident pour des changements dans les définitions de la légitime défense. Et en France, il est vrai qu'on est aussi dans une définition extrêmement étroite de la légitime défense. Hein. Vous savez que notamment, pour être reconnu en légitime défense, il faut avoir une réponse proportionnée. Hein, c'est-à-dire que si votre agresseur sort un couteau, bah, si vous sortez une arme à feu, c'est disproportionné. C'est notamment pour cela que ces organisations appellent à davantage de reconnaissance de ce qu'on appelle la légitime défense différée, alors ce qui est beaucoup lié aux travaux qui ont été faits sur ce qui s'appelle le syndrome de la femme battue. Bon, c'est pas le meilleur nom du siècle, mais bon. Mais qui dit quelque chose qui est assez vrai, c'est que pour les personnes qui sont victimes de violences dans leur intimité, et qui sont souvent donc des violences extrêmement répétées, elles se retrouvent dans un état mental où elles se sentent en permanence en situation d'insécurité, et que donc elles vont se défendre à un moment donné qui ne va pas forcément être à un moment donné de danger immédiat pour elles. Alors, c'est y compris quelque chose qui peut arriver hein, dans une agression, y compris de personnes que vous ne connaissez pas, hein, mais voilà, vous donnez un coup de couteau parce que vous pensez que vous êtes en danger immédiat, parce que la personne devant vous, elle fait trois têtes de plus que vous, etc. Mais en fait, si la personne, elle n'avait pas de couteau, mais que vous, c'était votre moyen de défendre parce que vous étiez persuadé que vous alliez mourir, et ben ça, c'est pas considéré comme de la légitime défense.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
Je ne vends pas le parfait programme pour être un abolitionniste pur et dur. C'est pas du tout l'enjeu de ce livre. C'est plutôt de montrer des formes d'expérimentation qui se situent en dehors du système pénal, avec cette idée qu'on peut faire mieux que ce que fait aujourd'hui le système pénal. Chose qui me semble extrêmement importante pour contextualiser voilà ce qu'est la justice transformative, c'est que ça s'est développé essentiellement à partir des années 2010, donc beaucoup en Amérique du Nord et aux États-Unis, et que c'est né de communautés, en particulier de personnes racisées, de communautés LGBT, de communautés dans lesquelles il y avait beaucoup de travailleurs et travailleuses du sexe, et qui, de par leurs caractéristiques sociales, ou les formes d'activité dans lesquelles elles sont engagées, savent qu'elles ne peuvent pas attendre de formes de protection du système pénal. Ainsi, vous êtes travailleuse du sexe et que vous êtes victime d'un viol, c'est très difficile de vous faire entendre et d'espérer une forme de protection du système pénal. Hein, on le sait pour aussi les minorités raciales et aux États-Unis, c'est particulièrement violent. Ces communautés-là ne peuvent pas attendre de forme de protection du système pénal. Elles ont néanmoins des besoins en tant que victimes, des besoins de vérité, des besoins de reconnaissance, des besoins de solidarité, de mettre du sens sur leurs épreuves, leurs expériences de victimation. Et donc dans ces communautés, à partir des années 2010, se développe l'idée que le système pénal, on ne peut rien en attendre, mais que ça n'empêche pas de s'organiser, ça n'empêche pas de se prendre en charge à la fois comme victime, mais aussi de prendre en charge les auteurs au sein de nos communautés. Alors là commencent les difficultés. Le challenge, c'est d'essayer de faire mieux que le système pénal, ce qui n'est pas toujours évident. En gros, c'est l'idée contrairement au système pénal qui met face à face une victime et un auteur, enfin, et d'abord un auteur et ensuite une victime, à vrai dire, et qui oppose leurs intérêts, là, on est plutôt dans l'idée que, certes, il y a une responsabilité individuelle, il ne s'agit pas de dire à un auteur « t'es simplement le produit d'une société patriarcale ou raciste, et puis... mon pauvre, c'est pas facile tous les jours. » Non, il s'agit pas du tout de ce type de discours, mais de dire, en même temps, les actes s'inscrivent dans des dynamiques collectives et des rapports de domination à caractère structurel, dont certes, on peut faire changer une personne en termes de ses représentations, ses comportements, ses valeurs, mais en même temps, il s'agit de transformer, d'où justice transformative, il s'agit de transformer les rapports sociaux. Et donc là, vous voyez l'ampleur des difficultés. L'ampleur des difficultés parce qu'on est forcément dans du travail collectif et que dans la société capitaliste, il est attendu de nous de travailler au moins 40 heures par semaine. Et puis lorsqu'il s'agit de nos besoins, de les déléguer à des professionnels, à des institutions. Et donc lorsqu'on soupçonne que chez les voisins, il y a peut-être des violences commises sur un enfant ou sur une personne, il est plus simple de téléphoner à un numéro de signalement de ces violences, un quart d'heure, 30 minutes, et puis on aura fait notre devoir, et on pourra d'ailleurs s'estimer un petit peu mieux que les autres d'ailleurs. Ce que dit la justice transformative, elle dit en fait ça va prendre beaucoup plus de temps, et puis il va falloir s'engager personnellement en fait, et plutôt que d'appeler un numéro de téléphone, on va se voir, on va être obligé de recevoir des choses qui sont violentes parce que lorsqu'on essaie de faire changer quelqu'un qui a commis des actes graves, il va falloir lutter pied à pied contre les formes de justification qu'il va avoir. Mais en même temps, petite note d'espoir, hein, le système pénal est un système qui ne permet pas aux auteurs de vraiment reconnaître leurs responsabilités. Vous avez tout intérêt, lorsque vous êtes poursuivi, à minimiser les faits, minimiser votre responsabilité. Hein, on le sait bien, lorsqu'on est poursuivi, quel que soit le type d'acte, hein, on n'a aucun intérêt à faire « mais monsieur le juge, mais d'ailleurs, vous savez pas, c'est pas un seul vélo, c'est trois, etc. » Donc, de la même façon, pour tous les types de délits, on entend très très rarement, en tout cas, j'ai été à beaucoup de procès, je l'ai jamais entendu, quelqu'un dire « mais j'ai compris, oh là là, la culture du viol, mais m'en parlez pas, voilà. » Et on n'entend pas non plus les juges dire monsieur, c'est très mal, mais vous savez, là, on est tous réunis et on va un peu élever le débat et parler de la manière dont ce que vous avez fait s'inscrit dans des rapports domination homme-femme. C'est pas le but du système pénal. Le système pénal repose sur l'idée qu'il y a des faits, qu'il faut les poursuivre et qu'il faut trouver un auteur, hein, avec l'idée de la responsabilité individuelle. Et donc, la justice transformative dit, certes, responsabilité individuelle, mais il y a aussi énormément de formes de complicité, de silence, hein, de manière d'être qui permettent à certains actes d'être commis. Donc, il faut d'abord, je pense que c'est important de le rappeler, que c'est d'abord les besoins des victimes, hein, les besoins des victimes étant individuels, qu'ils changent selon le temps, qu'ils apparaissent parfois des années après, des formes de victimation. Hein. On peut avoir des victimes qui, le lendemain d'actes très graves, se sentent un peu des super-héros. Hein. C'est parfois une réaction à la victimation, mais qui, des années après, peuvent avoir des formes de traumatisme. Puis c'est l'idée de faire changer un agresseur ou un auteur. Et puis après, qu'est-ce qu'on en fait collectivement pour changer nos communautés. Abolitionniste, c'est pas tant d'abolir la prison que de répondre vraiment aux besoins des victimes. Et là, tu évoques un des besoins, qui est le besoin de sécurité. Et ce qu'on observe, c'est que le système pénal, c'est la poursuite d'actes, quelle que soit la volonté des victimes, hein, de porter plainte, pas porter plainte, etc. C'est totalement secondaire pour le système pénal. Et puis le besoin de sécurité, en fait, il est différent pour chaque victime. Hein, il évolue dans le temps, il n'est pas forcément le temps de la peine. Enfin, et puis ce qu'on sait aussi de la victimation, c'est que c'est pas parce que l'auteur de faits particuliers est incarcéré et que vous pouvez savoir rationnellement que cet auteur-là est en prison, même à tel endroit, etc., et que vous le savez, ça n'empêche pas la peur, ça n'empêche pas donc ce besoin de sécurité de ne pas être satisfait par le système pénal. Et ce besoin de sécurité, il est différent selon les personnes. Hein, il a parfois un caractère un peu irrationnel, mais c'est le propre, en fait, de ce sentiment de sécurité. Et ça, il n'est évidemment pas pris en charge par le système pénal. Et puis, l'autre critique que l'on peut faire, c'est les formes, alors, ce que nous, on appelle de victimation secondaire par le système pénal. Dans le sens où y a une première victimation, qui est celle des actes que l'on dénonce, etc. Et puis le système pénal, ayant sa propre temporalité, ayant ses propres exigences qui sont liées à la découverte de la vérité, puis au procès pénal, va demander aux victimes, à des moments, de témoigner, puis au procès, hein, de à nouveau fournir un témoignage. Or, ces témoignages qui sont exigés des victimes, arrivent dans un temps qui n'est pas forcément le leur. Hein, y a des moments où une victime peut avoir envie de parler, à des moments où elle peut ne pas du tout avoir envie de parler. Y a des moments où les victimes ont envie de parler à l'auteur, puis il y a des moments où elles n'ont surtout pas envie, où elles peuvent en avoir peur. Et ça, le temps judiciaire, bah, il n'est pas là pour vous demander à quel moment vous voulez avoir une audience. Et puis le cadre qui est celui d'une salle d'audition dans un commissariat, qui est celui du procès, avec parfois des personnes qui nous sont étrangères, parfois même des personnes qui nous sont hostiles. Et là, on est obligé d'apparaître comme une bonne victime, de donner des éléments de son intimité qui permettent de renforcer hein, ce récit de la bonne victime, et évidemment extrêmement violent. Et donc on a aussi beaucoup de victimes qui racontent à la fois cette première victimation et cette seconde victimation, d'où cette expression de victimation secondaire par le système pénal hein, qui vient réveiller des traumatismes et qui en même temps ne donne pas de ressources à ces moments-là. Faut quand même rappeler que toutes les personnes qui ont des fantasmes pédophiles ne sont pas auteurs d'actes de pédocriminalité. Et que les études sont diverses, hein, mais il y a des études qui estiment qu'on aurait jusqu'à plus de 2% des hommes qui auraient des fantasmes pédophiles. Bon, évidemment, donc sans commune mesure avec le nombre d'auteurs. Une fois qu'on a rappelé ça, et on le sait dans les recherches sur les hommes qui expriment des fantasmes pédophiles, que dans un système ultra répressif aujourd'hui, où on n'a pas d'espace en fait pour ces auteurs, enfin pour ces personnes-là, on augmente le risque de passage à l'acte en fait. Et donc il y a pas mal de chercheurs qui disent mais ce serait davantage efficace plutôt que d'être dans la criminalisation et que certes il faut des formes de protection des victimes, hein, il ne s'agit pas de dire advienne que pourra, mais créer des espaces de ressources pour ces personnes-là pour prévenir le passage à l'acte. Une des formes de prévention en dehors du système pénal qui existe, qui est développée surtout au Canada, un petit peu aux États-Unis, dans d'autres systèmes comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, c'est ce qu'on appelle les cercles de responsabilité. C'est-à-dire le fait qu'autour d'un auteur qui a été déjà condamné, qui par exemple sort de prison, ou pour quelqu'un qui a conscience de risques pour lui de passer à l'acte, alors on parle d'agression à caractère sexuel, mais ça peut être aussi des auteurs de violences domestiques, se met en place sur le principe de ce qui s'appelle l'hospitalité radicale. Donc le fait d'aller vers l'autre sans avoir le moindre forme de, a priori, d'empathie, de sympathie, etc. pour cette personne. Donc parfois des personnes qui ont fait des choses bah, qui sont extrêmement graves et qu'on peut évidemment condamner d'un point de vue moral, mais de se dire, bah, en fait, la meilleure façon pour que cette personne ne refasse pas ce type d'acte ou ne passe pas à l'acte, bah, c'est de l'entourer. C'est de l'entourer et aussi d'essayer de comprendre et d'apprendre comment se met en place le passage à l'acte, quels sont les signaux indicateurs. On n'est pas dans un système parfait, mais on est dans un système qui, alors avec des recherches qui disent que ça aurait plutôt tendance à mieux marcher que la simple punition, mais un système qui repose aussi sur l'idée que les auteurs peuvent être les propres auteurs en fait de la prévention de la commission d'actes, avec bah, aussi l'engagement de personnes autour d'elles. Alors là, comme ça, on se dit « Ah ouais, truc de fou !» En même temps, lorsque vous savez que votre pote Gérard, quand il a trois coups dans le nez et qu'il commence un peu à s'approcher de la serveuse et qu'il l'a fait 50 fois et que vous l'avez vécu 10 fois que ça se finit mal, bah en fait, vous faites une sorte, enfin j'espère en tout cas, vous faites une sorte de cercle de responsabilité avec vos potes et vous dites, bon là il en est à sa deuxième bière, il commence un peu à sans arrêt parler de même genre de trucs, bah, on va peut-être lui dire de rentrer. Et en fait, vous le faites ça de façon informelle, sauf que les cercles de responsabilité formalisent ça, hein, avec cette idée que, aussi, on sait, et notamment sur les auteurs d'agressions à caractère sexuel, bah, l'isolement social est un facteur de risque dans le passage à l'acte. La difficulté de comment on oblige un auteur à accepter d'être dans ce type de procédure. En même temps, il y a une part d'optimisme qu'on peut avoir parce que il y a aussi des auteurs qui peuvent entendre des choses qu'ils n'entendraient pas avec le système pénal. Parce que le système pénal fait tout en fait pour qu'ils aient aucun avantage à reconnaître les faits et à évoluer. Et on le sait bien, hein, un auteur qui, lors du procès, dit « Ah bah oui, je me rends compte, je suis désolé, je m'excuse auprès de la famille de la victime, auprès de la victime, etc. » Bah, on pense tous que c'est pas authentique et que l'auteur il fait ça parce que c'est son avocat qui lui a dit, parce qu'il veut avoir une peine réduite. Donc on se prive aussi de pouvoir de façon authentique faire évoluer un auteur. Et donc ce que racontent les groupes qui font de la justice transformative, c'est que à la fois en fait on a aussi des auteurs qu'il est certes difficile dans un premier temps de convaincre, mais qu'il faut pas s'imaginer comme étant exactement se présentant exactement de la même façon qu'ils peuvent se présenter dans un procès. Et puis, autre commentaire que l'on peut faire, lorsqu'on parle des violences à caractère sexuel, des violences contre les femmes, c'est le rôle des autres hommes. Et là, c'est le retour de toutes ces expériences, de dire, effectivement, les hommes ont entre eux un rôle à jouer pour obliger les agresseurs à rentrer dans ces procédures et à entendre certaines choses que les femmes pourraient très bien leur dire, et que peut-être même mieux, mais qu'en tout cas, ils ont du mal à entendre lorsque ce n'est pas un autre homme qui leur dit. C'est sûr que ces procédures-là n'existent qu'avec le consentement des personnes. Hein, on ne peut pas forcer à quelqu'un d'être dans une telle procédure. Et que c'est aussi pour ça, je le disais tout à l'heure un petit peu ironiquement, est-ce que ces formes de justice transformative communautaire font mieux que la justice bourgeoise, hein, en gros, bah, c'est vrai que parfois non en fait. Non lorsque on est dans des situations où on n'a pas des compétences aussi par rapport à des formes de dangerosité. Hein, parfois, on a nos propres limites physiques, nos propres limites mentales, etc. Et donc, est-ce que c'est une raison pour dire qu'il ne faut pas développer ces techniques-là et ce savoir-là ? À mon sens, non. Parce que, encore une fois, bah, de toute façon, pour certaines personnes, il n'y a pas la possibilité d'avoir recours au système pénal. Et qu'il s'agit bien, aujourd'hui, de répondre aux besoins de certaines victimes. Alors qu'il y ait des échecs, des difficultés, il faut en parler, il faut voilà, espérer que l'imagination humaine permette de les surmonter. Mais aujourd'hui, pour certaines communautés, c'est ça qui leur permet de survivre. Come on, 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 come on